Aujourd'hui, nous allons parler d'un Hollandais, Jean Verkade, qui est devenu Don Willibrord Verkade, c'est-à-dire un moine bénédictin, à l'abbaye de Beuron, cette immense abbaye allemande, où il y a au moins 150 moines au cœur, c'est assez impressionnant. Et alors, c'est aussi aujourd'hui, 19 juillet, la fête d'une sainte dont le nom est plutôt curieux, Sainte Macrine. Mais je tiens à vous en parler parce que c'est un des personnages les plus remarquables du début du IVe siècle. Je vous donne quelques renseignements. On a des renseignements très, très précis sur la vie de Sainte Macrine, mais je vous donne que certains détails. Dans la liste des saints, il est question de plusieurs membres de sa famille. C'est l'aînée, Sainte Macrine, d'une famille nombreuse, dont la moitié des membres ont été canonisés. Imaginez. Macrine est née à Césarée de Cappadoce, vers 327. Elle avait été fiancée à l'âge de 12 ans, mais la mort prématurée de son fiancé, à qui elle avait été évidemment promise, a tout fait échouer ce projet. Et notre future sainte est donc restée à la maison, puis elle a assisté sa mère, elle l'a secondée dans l'éducation de ses frères et de ses sœurs. Et c'était un succès extraordinaire. Macrine a eu certainement une influence considérable sur les trois garçons qui nous sont les mieux connus, puisqu'ils portent tous les trois des noms et des titres qui ont fait la gloire et l'honneur de l'Église, qui n'était pas encore divisée, évidemment, puisque la grande division entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident n'est survenue qu'en 1054. Et là, nous sommes au milieu du IVe siècle, ou à la fin du IVe siècle, pour ce qui est de ces gens qui sont parvenus à la sainteté. Donc, parmi ses frères, il y avait Saint Basile, le futur évêque de Césarée, qui a écrit une règle monastique extrêmement importante, qui est le précurseur, en somme, de la grande règle de Saint Benoît qui a transformé l'Occident. On nous dit d'ailleurs que Macrine a réussi à arracher du cœur de son frère Basile le début d'un grand mouvement d'orgueil qui l'habitait. Et c'est ainsi qu'elle lui a inspiré le goût de la vie monastique. Son autre frère s'appelle, pas n'importe qui, Saint Grégoire de Nice. C'est un des plus grands pères de l'Église, évêque à Nice. Et enfin, Saint-Pierre. Quel Saint-Pierre? C'est le Saint-Pierre évêque, Saint-Pierre de Sébaste, qui est fêté aujourd'hui le 9 janvier. Je vous en parlerai, mais je vous ai déjà parlé de Grégoire de Nice. Et c'est comme ça que je vous avais d'ailleurs parlé de Macrine. Cette grande Macrine, quel étrange nom, hein, M-A-C-R-I-N-E. Eh bien, c'est ses frères et ses sœurs qui l'appelaient ainsi, la grande Macrine. Elle a pensé, elle aussi, à la vie monastique, et elle a su en donner le désir à plusieurs autres femmes autour d'elle. Elle a formé autour d'elle, donc, une communauté. Ils observaient une vie de prière, une vie de pénitence. L'étude de la Bible avait également sa place. C'est pas d'aujourd'hui qu'on étudie la Bible. Je vous ai déjà dit que j'ai dans ma bibliothèque une Bible imprimée à Montréal avec la permission et l'autorisation de l'archevêque de Québec à l'époque, puisqu'il n'y avait pas d'évêque à Montréal. Et cette Bible, c'est très répandu, c'est en français. Mais on s'imagine toujours que la Bible, on a à peine le droit de lire ça. C'est plus ou moins vrai. C'était des excès qui ont été commis par certains prêtres de type janséniste que nous avions ici. Et évidemment qu'on nous recommandait toujours de lire la Bible avec des conseillers ou des commentaires afin d'éviter que notre esprit ne déraille en lisant certains textes et qu'on prenne, mettons, au pied de la lettre, je fais un peu de d'humour en disant ça. Là, quand on lui dit « Si ton œil te scandalise, arrache-le », alors si les gens prenaient ça au pied de la lettre, on aurait eu beaucoup de borgnes au Québec. Hein. Mais j'exagère. Là. Mais il y a d'autres textes qui peuvent être trop pris au pied de la lettre. La mère de Macrine, qui s'appelait Émilie, a été du nombre de ces femmes qui ont suivi Macrine dans la vie monastique. Elle a vécu, donc, leur mère, la mère de tous ses enfants remarquables, jusqu'en 373. Et cette femme admirable a fait le sacrifice de ses enfants en les offrant à Dieu, mais dans la joie, c'était pas un sacrifice pénible, hein, c'était un sacrifice de bonheur. Une offrande comme quand on offre sa journée, ses joies, un bon repas, des rencontres avec des amis, tout ça, ça s'offre à Dieu dans un sens d'action de grâce. Hein. Merci Seigneur pour toutes ces joies que tu nous accordes et que nous pouvons vivre, toi qui nous as créés. C'est une prière extrêmement valable. C'est pas la souffrance que Dieu veut, c'est notre bonheur. Et Macrine est morte peu d'années après sa mère, 6 ans plus tard, en 379. Et avant de quitter notre terre, eh bien, elle a prononcé une prière où elle fait passer toute sa foi. On l'a recueillie, cette prière. Elle dit, « Seigneur, tu as dissipé la peur de la mort. Hein? Tu as dissipé la peur de la mort. » Si les croyants avaient vraiment, vraiment la foi, ils accepteraient de dire ce que j'osais dire à ma mère pendant 10 ans, et j'ai fini par la convaincre, que le plus beau jour de sa vie s'en venait. Au début, elle m'a dit, tu peux bien parler, c'est pas ton tour, mais elle a fini par comprendre, parce qu'elle avait de l'humour, elle a fini par comprendre que c'était le plus beau jour de sa vie, car le plus grand et le plus beau jour de notre vie, c'est celui de cette grande rencontre avec Dieu amour, que l'on contemplera et dans lequel nous atteindrons un bonheur à nul autre pareil. Dans sa prière, Macrine ajoute, « Par toi, ô Seigneur, la vraie vie commence ou finit cette vie actuelle. » C'est très beau. Elle expirait comme ça, comme on s'endort. Saint Grégoire de Nazianze, qui était l'ami de son frère Basile, je vous en avais déjà parlé, hein, a composé pour elle une épitaphe où il parle de son humilité, qui l'avait caractérisée ici-bas. Et son triomphe dans le ciel, il écrit « Macrine, l'aînée de la noble Émilie, sa mère, se cachait aux yeux des hommes, et maintenant son nom est dans toutes les bouches. Elle a une plus grande gloire que tous. » Sainte Macrine est fêtée également le 19 juillet dans l'Église orthodoxe. C'est aussi aujourd'hui la fête d'un prêtre séculier qui est mort en 1679. Mais je vous en parlerai un peu plus tard. Je voudrais simplement vous mentionner en quelques instants, puisqu'on est au début de l'Église, que c'est la fête de Saint-Arsène aujourd'hui. Il y a une paroisse Saint-Arsène à Montréal. Et j'imagine que beaucoup de gens qui vont dans cette paroisse Saint-Arsène, c'est sur la rue Bélanger, ne connaissent pas tellement bien ce Saint-Arsène, qui est un Égyptien du 5e siècle, donc un peu plus tard que notre Macrine. C'était un anachorète, je vous ai déjà expliqué ce que c'est, un anachorète, pour ceux qui l'ignoreraient, c'est un ermite, un homme qui vit dans le désert, qui pratique une vie étrange, éloignée de tout désir et de toute tentation, afin de se purifier totalement. Ces gens-là, qui semblent exagérés, demeurent des exceptions. J'ai déjà rencontré des ermites, j'en ai interviewé à la télévision de Radio-Canada, à l'émission Rencontre, mais ces gens-là sont souvent extrêmement équilibrés et très intelligents, et ont le sens du corps mystique du Christ. Ils savent que jamais, en quittant le monde, il s'éloigne du monde, de l'univers, en fait. Il plonge au creux là où serait le cœur du corps mystique, où l'amour palpite. C'était un original, saint Arsène. Son nom, Arsenios en grec, veut dire « viril ». Et c'était en effet un rude gaillard. Il venait d'une famille patricienne, c'est-à-dire d'une famille noble de Rome. Il s'est retiré au fameux désert de Cété. Je vous appelle Cété parce que le nom revient souvent. C'est un désert très important à l'époque en Égypte. S-C-E accent aigu, T-E accent aigu. Il s'est retiré là en 410. Comme vous voyez, c'est pas tellement longtemps après la mort de Sainte Macrine, c'est-à-dire 30 ans à peu près après sa mort. Il y a reçu de nombreuses visites d'admirateurs qui étaient soucieux d'écouter ses conseils, qui étaient clairs, qui étaient judicieux, on en a conservé. Il était d'allure pas tellement engageante, car il était vêtu de façon très curieuse. Mais c'était un homme très tendre, très bon. Il méditait constamment cette interrogation qu'on trouve dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 15, c'est au verset 13. Chapitre 15, verset 13. Est-il de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime? Et c'est ainsi qu'il vivait. Il donnait sa vie pour ceux qu'il aimait. Je vous l'ai expliqué un peu tout à l'heure. Il faudra revenir un peu là-dessus sur la vie des ermites et des anachorètes qui choquent souvent beaucoup de gens. Il a, dit-on, beaucoup pleuré ses fautes et beaucoup pleuré sur le monde. Et avec lui, on peut prier sur cette raison que l'on retrouve dans le missel pour la fête du jour. Dieu Tout-Puissant, qui avait fait jaillir du rocher une source d'eau vive. C'est quoi ça? Vous savez, c'est Moïse dans le désert. Il frappe d'un bâton le rocher et de l'eau vive jaillit. On retrouve ça même dans l'Église contemporaine, quand Bernadette, à Lourdes, la Vierge lui demande de gratter le sol et une source a jailli et cette source a guéri quantité de gens. Je vous en ai déjà glissé un mot l'autre jour. Nous y reviendrons. Les miracles sont authentiques à Lourdes, observés par de très grands savants. Souvent les gens disent, ah, s'il y avait un miracle, je croirais. S'ils lisaient ces livres, comme celui dont je vous ai parlé l'autre jour sur les guérisons de Lourdes, on verrait qu'il y a des phénomènes tellement fantastiques que ça dépasse tout entendement, mais on dirait que les gens veulent pas les lire, c'est très curieux. Donc, cette raison, Dieu Tout-Puissant, qui avait fait jaillir du rocher une source d'eau vive, tirez donc de notre cœur de pierre des larmes de componction, pour que nous puissions pleurer nos péchés et que nous méritions d'en recevoir le pardon. C'est une très belle raison, à mon avis. Et Arsène, saint Arsène, a été un pénitent, un homme qui a pleuré ses péchés, mais qui était rempli d'amour. D'ailleurs, en guide de raison funèbre, son voisin, l'abbé, un abbé, c'est-à-dire un abbé de monastère, hein, qui s'appelait Poémène, s'est écrié « Heureux Arsène, tu as tant pleuré sur toi en cette vie. Quiconque ne pleure pas ici-bas pleurera éternellement dans l'au-delà. En d'autres termes, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. La consolation profonde que l'on ressent quand on regrette ses fautes, c'est de se savoir pardonner et d'être en union amoureuse avec Dieu dans un bonheur à nul autre pareil. Mais c'est une introduction pour vous parler de quelqu'un de merveilleux dont je vous ai glissé un mot tout à l'heure, Jean Vercade, qui est devenu Don Willibrord Vercade, un bénédictin à l'abbaye de Beuron en Allemagne. Il a écrit son autobiographie dans un livre qu'il a intitulé « Le tourment de Dieu ». Son drame intérieur n'a cependant jamais éclipsé sa bonne humeur. Il a trouvé la paix qu'après avoir trouvé Dieu. Dès son enfance, il s'est senti fasciné par quoi? Par la beauté. Or, c'est la rencontre de la beauté de Dieu qui l'a foudroyé. Il y avait une foule de signes qui l'orientaient vers l'Église catholique, et à l'intérieur de celle-ci, vers la vocation religieuse bénédictine. Son âme était capable de silence, de détachement. Et il a pu interpréter ces signes, puis reconnaître Dieu qui l'appelait. Il a aussi eu le courage de suivre Dieu. À Zaandam, le 18 septembre 1868, deux jumeaux sont nés, Jean et Éric. Ils sont venus au monde, dans la famille des Vercades. Cette famille, qui comptera 3 filles et 5 garçons, c'est une de ces vieilles familles protestantes hollandaises, enracinées dans une saine et solide tradition bourgeoise, comme il l'écrit, où sens du devoir, politesse sincère, honnêteté, droiture vont de soi. C'est lui qui écrit ça au sujet de sa famille, comme quoi il aimait sa famille protestante. Le père, M. Vercade, rejetait le baptême des enfants. Alors les deux jumeaux n'ont pas été baptisés. On choisissait à 18 ans dans cette famille. Et comme il arrive d'habitude, bien, les deux jumeaux ne se quittaient jamais, hein, surtout lorsqu'il s'agissait de faire des mauvais coups. Et déjà, le petit Jean révélait des facultés imaginatives exceptionnelles. Et c'est toujours lui qui compose, on peut dire, le scénario de la blague qu'ils faisaient tous les deux. Et à la maison, bien, on parle parfois de Dieu et de Jésus-Christ. Mais en bon protestant traditionnaliste, eh bien, c'est un peu froid. C'est un peu imprécis. Avant le repas, les enfants prient en commun. C'est beau, les protestants souvent, avant le repas, et on prie. C'est la seule prière en famille, toutefois. Non loin de la maison, il y a une église catholique. Les gens y entrent parfois par curiosité, tout jeune. À l'école communale, bien, les deux jumeaux exploitent sans vergogne, on peut dire, leur ressemblance. Ils jouent toutes sortes de tours à leurs professeurs. Un jour, il est question du mystère de la Pentecôte. Alors le pasteur protestant explique que le miracle des langues, vous savez les langues qui sont tombées, les langues de feu, qui tombent sur la tête des apôtres et de la Sainte Vierge, qui est au cœur des apôtres le jour de la Pentecôte, il dit que ce n'est qu'une pieuse allégorie. Alors ça inquiète Jean. Dans son petit cerveau d'enfant, il se pose des questions. Et il dit, il faut bien admettre ce que dit cet homme. Il sait mieux que nous, puisqu'il a tant étudié. Mais n'empêche que c'est si clair dans le texte, se dit cet enfant. Alors, les parents reprennent chez eux, finalement, à Amsterdam, en Hollande, leurs deux enfants. Ils sont confiés à une école de commerce et Jean s'en accommode. Mais les cours de comptabilité, ça ne l'intéresse pas énormément. Il aime mieux les boutiques d'antiquaires. C'est le sens de l'art et de la beauté qui le séduit. Il aime les vieilles choses belles. Et vient un jour où Jean Vercade parle d'études artistiques et son père fait des objections. Dès que son père a eu l'assurance qu'il ne s'agissait pas d'un nouveau caprice de la part de son enfant un peu folichon, là, eh bien, ce bon père protestant, libéral, qu'il était, il a eu assez d'esprit, puis d'intelligence, puis de sens paternel pour ne pas contrecarrer davantage les projets de son fils. Et même mieux, il l'a confié à un maître de renom, le peintre Avermann, sous la conduite duquel Jean a préparé l'examen d'entrée à l'Académie des Beaux-Arts. Il y a 18 ans, peu convaincu de la vérité de la religion familiale, eh bien, Jean refuse le baptême. C'est à 18 ans qu'on décidait, comme je vous disais tout à l'heure. Il décide de ne pas recevoir le baptême. Ça ne l'intéresse plus. En août 1884, écrit-il, nous passâmes, mon frère et moi, une partie des grandes vacances au bord de la Moselle. Nous arrivâmes à Cologne, en Allemagne, un samedi. Après être descendus dans un hôtel, nous allâmes à la cathédrale. Je sais pas si vous avez déjà vu la cathédrale de Cologne. Absolument fantastique. Il continue, c'est-à-dire en disant, la splendide nef était presque sombre. Dans le transept de gauche, quelques lumières brûlaient. De la tribune, des chanteurs s'élevaient un chant à... De la tribune des chanteurs s'élevait un chant à 4 voix. On ne voyait que le maître de chapelle qui lentement bêtait les mesures. Le chant n'était pas fort, mais doux et léger, et passait dans les hautes voûtes comme le vent dans les sapins. Ce fut là un instant vraiment solennel. Nous étions tous les deux profondément émus. Je me souviens d'avoir laissé échapper ces paroles. Vrai, c'est à en devenir catholique. Et là, le tintement d'une clochette s'éleva du chœur. Un prêtre s'avança, portant quelque chose. Il était précédé d'un garçonnet qui balançait un encensoir. Deux autres portaient des cierges. C'est évidemment Saint-Sacrement qu'ils portaient. Et Jean Vercade continue dans son texte. « La clochette de plus en plus se rapprochait de nous. « Maintenant, filons, dis-je, et nous prîmes, hélas, la fuite devant Saint-Sacrement. » Ah, que de choses n'avons-nous pas laissé échapper dans la vie pour n'avoir pas voulu attendre. » Fin de cette citation. En somme, le ton de cette narration et le fait que Jean Vercade, bien des années plus tard, rapporte ce petit souvenir dans les moindres détails, ça prouve à quel point il était dès son jeune âge sensible à l'aspect de la beauté des cérémonies de l'Église catholique. Jean Vercade a maintenant 20 ans. Il n'est plus que jeunesse. Et une passion pour le beau l'habite. C'est une passion naïve et farouche, qui se croit capable des plus grandes choses. Mais hélas, il ne tarde pas à remarquer l'hiatus qui sépare la réalité du rêve. Oh, la réalité et le rêve, c'est souvent bien éloigné, et ce sentiment d'impuissance le brûle, ça l'irrite. La solution, lui semble-t-il, est de se lancer dans une vie de sensations et d'impressions fortes. Alors il est sollicité par tous les appels, dit-il, de l'univers. Et il commence à se sentir à l'étroit sur le toit paternel. Alors plus d'une fois, il lui préfère la joie des petits bals, des guinguettes, on dirait aujourd'hui des discothèques. Souvent, écrit-il, je devais rire de bon cœur, et je m'y amusais bien, mais rarement je pouvais m'empêcher de penser « Tu es quand même fait pour quelque chose de meilleur que ces stupidités de club de nuit. » Il y a certains jours même, il se sent englouti dans une mer de tristesse et d'ennui. Un instinct de conservation lui dit alors de fuir la ville d'Amsterdam. « Toujours, dit-il, la grande nature de Dieu a exercé sur moi une influence pacificatrice et purifiante. Et dans la solitude et le silence, dans l'émerveillement joyeux de la beauté qui me ceinturait de toutes parts et que je cherchais à exprimer en ligne et en couleur, je me sentais devenir un autre homme. » Il se plonge dans les confessions de Tolstoï, grand écrivain russe. Il se heurte à l'affirmation qu'à la longue, Dieu seul peut satisfaire notre appétit de bonheur. Je répète, Dieu seul peut satisfaire notre appétit de bonheur. Dieu seul, figurez-vous, pas même l'art, ni la littérature. Et cela, c'est écrit par Tolstoï. Tout sauf un bigot. Pourtant, celui-là, Tolstoï, n'est pas un bigot. Et Vercade n'en revient pas. Je vous ai dit qu'en lisant Tolstoï, il s'est rendu compte que l'art ou la littérature ne pouvait satisfaire cet appétit de bonheur. Seul Dieu pouvait le faire et qu'il n'en revenait pas. Il écrit d'ailleurs à ce sujet, dans son autobiographie, « L'art, avec un A majuscule, avait été jusqu'alors tout pour moi. Il me tenait lieu de femme, d'enfant, de richesse, de joie, de contentement, bref, de tout. Maintenant, je comprends ma folie. Je dois cependant préciser que le don inconditionné de ma personne à la beauté, avec un B majuscule, a été pour moi une source de bénédiction, car ainsi se développa très tôt en moi un esprit de décision qui me faisait tendre sans hésiter vers un bien plus élevé, dès que celui-ci s'était révélé à moi comme tel. » Je vous ai parlé l'autre jour de ce roman de Huysmans, À rebours. Certaines strophes de Baudelaire et de Verlaine, qu'il avait lues aussi, ainsi que le roman de Huysmans, à cette époque-là, ont fait mûrir en lui cette inquiétude de Dieu.
Le problème que, lors de son refus du baptême à 18 ans, il s'était promis d'examiner plus tard. Et ce problème de Dieu, ça le tenaille de plus en plus. En février 1891, Verkade quitte Hattem, H-A-2-T-E-M, et la Hollande pour Paris. En ce siècle qui se termine, Paris était travaillé par une fermentation étonnante d'idées, de tendances. Il y avait le café Voltaire en face de l'Odéon, à Paris. C'était le lieu de ralliement des symbolistes, des poètes symbolistes. Jean Verkade se sentit tout de suite en communion d'idées avec cette nouvelle école. Et comme Mallarmé, comme Rété, un futur converti lui aussi, et comme les autres symbolistes, il était en quête de ce complément d'âme, ce complément d'âme, absent d'un monde qui ne rêvait que de progrès scientifique. Et un courant spiritualiste semblable se dessinait dans certains milieux artistiques. Il ne faut pas oublier l'école des Nabis qui groupait les plus chaleureux partisans de cette nouvelle tendance. Un Gauguin était au cœur de cette école. Gauguin, surtout, qui marquait cette école de sa forte personnalité. Gauguin qui disait « Une œuvre d'art est aussi une affaire d'âme, pas seulement d'habileté. C'est une double naissance, une naissance dans l'esprit et sur la toile. » C'est beau, hein? Et le fameux Sérusier, que j'aime beaucoup Sérusier comme peintre, hein, pensait pas autrement. C'est lui qui eut le plus d'influence sur Verkade, son ami intime. D'ailleurs, Jean Verkade écrit « Déjà, après un mois, j'admettais une plus haute réalité que celle des sens, et petit à petit, j'en vins à reconnaître l'existence de l'âme et son immortalité. » C'est le premier pas. Reconnaître que nous avons une âme et que cette âme est immortelle, qu'elle est créée par Dieu. Mais pourquoi est-elle créée par Dieu? Voilà la question. Un seul dans le groupe des Nabis était resté catholique convaincu. C'était une âme vraiment transparente et qui s'apparaît dans son art. C'est une âme lumineuse. C'est Maurice Denis. Il avait 20 ans lorsque Verkade l'a rencontré. Et Verkade parle de Maurice Denis en ces termes. « À son contact, je réalisais avec acuité tout ce que mon éducation avait eu d'unilatéral et de déficient. Instinctivement, je compris quelle richesse la foi avait apporté à ce jeune artiste. » Quand on rencontre un jeune chrétien de 20 ans, intelligent, convaincu, qui a du talent, on reste toujours saisi. C'est un témoin par sa simple présence. Un jour, Gauguin a annoncé son départ pour Tahiti. Tout le monde sait que Paul Gauguin est allé terminer ses jours à Tahiti, en plein Pacifique. Âme généreuse, ce premier du groupe des Nabis quittait tout, le succès y compris, pour des îles lointaines et magnifiques où, pensait-il, l'appelait son idéal de beauté. Et lors du dîner d'adieu à Paris, qui réunit tous les Nabis, Verkade fut présenté au dernier venu, qui s'appelait Balin ou Balin, faisait appeler Balin. C'était un Danois, qui était bourrelé d'inquiétude et en quête de quelque chose de meilleur. Ça devient un grand ami, ce Danois. Le Hollandais et le Danois seront de grands amis. À quelques jours de là, donc notre Hollandais, Verkade, et ce Danois se retrouvaient un soir dans un dancing, comme on disait à l'époque, dans le quartier latin. Je me souviens d'y être déjà allé, comme ça, en 1949, dans un... Mon Dieu, c'était au tabou pour danser. Avant d'entrer dans un monastère, je voulais rentrer dans un monastère en France et je me disais, il faudrait bien que j'aille danser une fois avant de rentrer dans un monastère. Et c'est là qu'on sent le vide de ce genre de vie. Les coupes tourbillonnent. Mais après quelques gouttes d'amusement, bien, Balin en a eu assez et Verkade est venu le rejoindre et ils ont sympathisé. D'un commun accord, ils se sont proposés de ne pas rester davantage à Paris, où ils ne faisaient rien de bon. Mais ils ont décidé de gagner la Bretagne. Sérusier, dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'aime beaucoup comme peintre, en avait déjà parlé à Verkade. Alors, c'était là qu'il y avait plusieurs du groupe de Nabis qui travaillaient, et loin de la dissipation de la capitale, bien de Paris, n'est-ce pas, ils pouvaient travailler ensemble. Et là, les deux amis se sont installés à Pont-Aven, dont il est souvent question dans l'art moderne. Hein. Et puis, tout de suite, ils ont subi le charme de la campagne bretonne. Mais ce qui les captivait surtout, c'était l'atmosphère de foi profonde et simple qu'on respire partout en Bretagne, même encore aujourd'hui, dans son cadre de chapelles, de calvaires et de processions. C'est une population robuste, croyante, la population bretonne. Ils sont très accueillants, très très accueillants. Que j'ai aimé la Bretagne, moi. Ils étaient en Bretagne depuis 3 semaines, lorsque leur ami Sérusier est venu les rejoindre. Il écrit un soir, Sérusier, s'adressant à Brûle-Pourpoint à moi, a dit « As-tu remarqué que les créatures ne sont pas toutes également parfaites, bien que chaque espèce le soit en son genre? La plante a une vie supérieure à celle du rocher, et l'animal une vie supérieure à celle de la plante. L'homme, être à la fois corporel et spirituel, est à son tour bien au-dessus de l'animal. Ne peut-il rien y avoir au-dessus de l'homme? Ou bien ne te semble-t-il pas logique qu'il y ait d'autres créatures qui n'aient pas de corps, mais qui soient de purs esprits, des créatures que nous nommons des anges? Certainement, lui, je dis, écrit Vercade, cela me paraît vraisemblable. Eh bien, continua Sérusier, cela ne nous conduit-il pas à admettre l'existence d'un être qui soit plus parfait que la créature la plus parfaite, d'un être qui soit, pour ainsi dire, au bout de l'échelle en haut que l'on peut dresser? Étant donné la perfection graduelle des créatures vers lui, vers Dieu. Et Vercade termine en disant, il faut avouer que Sérusier, sciemment ou non, n'établissait pas une différence très précise entre être de façon absolue et être en tant que créature. Mais à partir de ce moment, et c'est ça qui est important dans son texte à Vercade, à partir de ce moment, j'ai cru en Dieu comme en ce qu'il y a de meilleur et de plus parfait. À Paris, Vercade était entré plusieurs fois dans les églises, mais en dilettante. Et c'est donc dans un petit village de Bretagne, à Huelgoat, qu'il assiste pour la première fois à la messe. Il n'y avait rien pour s'agenouiller dans l'église. Mais au moment de la consécration, tous les hommes se sont agenouillés. C'est pas comme dans bien nos églises, où s'il n'y a rien pour s'agenouiller, personne ne s'agenouille. Ces gens-là s'agenouillaient. Ils avaient la foi en la présence réelle. Il écrit à ce sujet un des plus beaux textes. « Quoi, moi, m'agenouiller? Mon orgueil protestait de toutes ses forces contre pareille humiliation. Mais j'étais là, debout, dépassant tout le monde. Je ne pouvais pas faire autrement. Et je m'agenouillais comme les autres. Quand les hommes se levèrent, je fis de même. Mais quand je me relevai, quelque chose avait changé en moi. » J'étais déjà à moitié catholique, car mon orgueil était brisé. Je m'étais agenouillé. Donc à la joie du premier agenouillement succède une période d'inquiétude et de vide et d'abandon. Mais Dieu ne me lâchait pas, écrit-il. Alors il se prend alors à maudire cette satanée envie de se faire catholique. Il refuse, il lutte. Ben, c'est pas toujours drôle, hein, devenir catholique pour ces gens-là. Les catholiques ont tellement l'air d'une bande étrange de loin. Hein? Étrange aussi ces églises où il y a des statues devant lesquelles les gens s'agenouillent et touchent ces statues. Tous ces lampions. Des prêtres, parfois, qui ne nous reviennent pas. Des évêques, curieux. Des papes, à l'époque, qui portaient des tiares. Etc., etc. Je ne vous dirai pas tout ce qui tombait sur les nerfs de mon pauvre père qui avait beaucoup de difficultés à comprendre que nous y soyons si catholiques, parce qu'on voyait, nous, derrière toutes ces choses-là, l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel. Et c'est ça le problème, hein? Dieu ne me lâchait pas, disait-il. Il avait une satanée envie de se faire catholique. Il fallait maudisser ça. Et c'est en Bretagne que ces idées ont pris corps. Peut-être un retour en Hollande, s'est-il dit. Si je retourne dans la Hollande protestante, bon, ça va disparaître. Et de fait, les rues d'Amsterdam le replongent dans un climat matérialiste et puis simplement humain, un peu borné, un peu serré. Mais le soir tombé, ce qu'il a entrevu en Bretagne le subjugue à nouveau et il décide, quand je serai de retour en Bretagne, eh bien là, je n'aurai de repos que lorsque j'aurai éclairci ces questions de foi. Et après quelques mois, il est effectivement de retour en Bretagne. Il assiste fréquemment à la messe et aux offices. Alors là, il écrit, « Je décidai d'étancher ma soif à la source de la vérité elle-même. Je lus et je relus le Nouveau Testament. » Pour moi, c'était clair. Les évangélistes aimaient la vérité et voulaient dire la vérité. Quand je comparais ensuite ce que j'avais lu avec ce qui se trouve dans le catéchisme catholique romain, alors il me fallait avouer que l'un concordait avec l'autre. Mais est-ce qu'il ne devrait pas rester un calviniste comme les membres de sa famille? Il dit non, jamais. J'avais trouvé trop de divisions hors de l'Église catholique, parce qu'il faut bien reconnaître que les protestants, tout en cherchant sincèrement un retour aux origines, une fidélité à l'Évangile, une fidélité à la parole de Dieu, en sont arrivés à se diviser considérablement, et actuellement, il y a un grand mouvement œcuménique chez les protestants. Il faut prier pour cette fraîcheur qui naît dans le cœur de nombreuses grandes églises protestantes qui souhaitent l'unification, qui veulent vraiment se réunir. Hein, parce que cette division-là, ça ne peut pas continuer. Alors donc, lui, il trouvait qu'il y avait trop de divisions hors de l'Église catholique. Il ne pouvait pas chercher son salut de ce côté-là. Il dit, « J'étais aussi choqué par la froideur de la liturgie protestante. » Qu'est-ce qu'il dirait de notre liturgie d'aujourd'hui, parfois est un peu froide aussi. Hein? Et je me disais, si je deviens chrétien, alors je deviens tout à fait chrétien. Et tout à fait pour moi, cela voulait dire catholique. C'était son point de vue. Je ne veux pas attaquer mes frères protestants en disant ça. C'était son point de vue, sa façon de voir les choses. Mais il hésite encore, il est déchiré par des impulsions contradictoires, alors il prie, et le secours lui vient sous la forme d'un guide qui va l'aider à franchir les derniers obstacles, c'est le père Le Texier, un des deux jésuites qui est chargé de prêcher des retraites dans la région en Bretagne. Quand Vercade avait appris que les deux jésuites arrivaient au village, il s'était enfui au bourg voisin avec son ami Balin. Croyant la mission terminée, ils étaient rentrés tous les deux, et là, le vieux missionnaire est apparu à Vercade si inoffensif et si bon qu'il lui fit toutes ses confidences. Vercade s'est confié à lui, un bon directeur spirituel expérimenté, bien le père Le Texier, a encouragé tout ce qu'il trouvait de saint en Vercade. Il a laissé libre cours à l'évolution de sa vie spirituelle, puis un autre père du collège de Vannes, une des villes importantes de Bretagne, lui a mis entre les mains un exemplaire de l'explication de la foi catholique de Giraudon. C'est ce qu'il faut faire quand quelqu'un cherche autour de nous, c'est de lui confier un livre qui explique la foi catholique, mais un livre bien fait. Il écrit, en fin de compte, c'est encore plus facile de croire à tout ce que dit l'Église catholique. Tout ce que tu as entendu et lu jusqu'à présent exige bien plus de foi que l'impitoyable logique de la doctrine catholique. Ce qui veut dire que souvent des gens se mettent à croire toutes sortes de choses. Ils vont croire, mettons, aux extraterrestres. Bon, ils croient qu'il y a des planètes habitées, puis que ces gens-là viennent vers nous. Ça leur prendrait des milliers d'années-lumière, mais ça fait rien. Ils viennent, ils sont nombreux. Il y a même des intraterrestres, qu'on dit. Alors, ils croient aux intraterrestres. Alors, il y a des intraterrestres dans le Mont-Saint-Bruno, ou je ne sais trop où. Et ainsi de suite. Et on croit toutes sortes de choses. Et on l'a vu par des sectes qui ont suscité quantité de morts dernièrement. Croire à toutes sortes de choses très, très étranges. Et c'est ce qu'il veut dire, lui. C'est plus facile, finalement, de croire aux vérités de la foi catholique, qui sont un peu surprenantes, mais certainement moins difficiles que d'autres, peut-être. Et le 26 août 1892, dans la chapelle du collège des Jésuites de Vannes, il reçoit le baptême. 26 août 1892, il reçoit le baptême. Il fait sa première communion. Et provisoirement, seul son ami danois, Balin, en est informé. Les semaines suivantes, son âme nageait dans le bonheur de la possession sentie de Dieu. Le moment était bien choisi pour lui d'aller visiter l'Italie, l'Italie ensoleillée et catholique. Alors, les semaines suivantes, son âme nage donc dans le bonheur, comme je vous ai dit. Alors, il se rend en Italie, à Florence, à Fiesole, à Sienne, à Rome, à Assise. Alors là, toutes les merveilles de l'art le ravissent, et pour comble de bonheur, il peut partager toutes ses émotions avec son ami Baline, qui, à Florence, reçoit lui aussi, ce Danois, le baptême catholique. Alors là, les sympathies des deux amis vont au couvent et à la spiritualité franciscaine, qui s'harmonisent tout à fait avec leur tempérament d'artiste. Ils ne sont pas contents seulement de s'inscrire au tiers-ordre de Saint-François. Imaginez, ils vont vite. Ils voudraient encore emporter l'habit. Ils veulent prêcher. Ils se déconvertissent. Alors à Rome, Vercade demande et obtient du supérieur général des franciscains la permission de séjourner plusieurs mois dans le beau couvent de Fiesole. C'est un bijou de couvent, hein, comme ceux qu'on voit sur les tableaux de Frangelico. Et dans l'atmosphère religieuse du couvent, écrit-il, « Mon âme prospérait merveilleusement. C'était pour moi l'aurore d'une nouvelle vie. » Alors, dans la mesure où on le lui permet, il partage la vie des moines eux-mêmes. Aux heures de récréation, il se mêle aux jeunes religieux. Il trouve chez eux une fraîcheur d'âme, une délicate charité qui l'enchante. Et à la lecture de la fameuse histoire d'une âme de Sainte Thérèse de Lisieux, qui se répand, et surtout des livres de saint Augustin, mais tous deux, ils approfondissent leur vie intérieure. Il se passe des années, comme vous voyez. Souvent, j'arrêtais ma lecture et je réfléchissais à ce que je venais de lire, et alors, insensiblement, les pensées pâlissaient, mais je ne restais pas seul. Non, quelqu'un était présent. Il m'enveloppait. Il était en moi. C'est le Christ. Et quand il songeait à l'avenir, il se voyait allant de couvent en couvent, rétribuant l'hospitalité des religieux par l'exécution d'une fresque ici et là. Et l'idée lui est venue de se fixer dans une de ces oasis de paix. Et il s'est songé à rentrer chez les Chartreux, ordre difficile. Et entre-temps, à Amsterdam, sa famille, les Vercade, aspiraient à revoir notre vagabond, Jean Vercade. Et impossible d'attendre plus longtemps, il est donc allé les voir. Et peu avant son retour, bien Jean a annoncé par lettre le grand changement que s'était opéré en lui, et son père et sa mère ont parlé tout de suite d'ingratitude et de trahison quand ils ont constaté qu'ils pouvaient toujours compter cependant sur l'affection de leur grand garçon. Et les rapports sont devenus très cordiaux. Alors pour rentrer en Hollande, Jean a fait un crochet par l'Allemagne. Il a désiré voir la fameuse abbaye bénédictine de Beuron, immense abbaye dont il avait entendu parler en Italie. Alors, il y avait là la splendeur liturgique d'un chœur de 150 moines qui donnait à leur interprétation du chant grégorien, mais des accents de paradis. Ils se trouvaient au paradis. Alors, il a trouvé là une équipe de moines peintres qui travaillaient depuis des mois à la décoration de l'abbaye. Alors, à Amsterdam, il a trouvé l'atmosphère de la maison exactement comme il l'avait quittée chez ses parents. Il dit, « Je me retrouvais tout à coup dans un milieu qui m'était devenu étranger, un milieu de vieille bourgeoisie hollandaise, ancré dans ses habitudes et ses traditions. » Alors, quelques semaines après son retour, il a reçu une lettre de son ami Balin, le converti. Et celui-ci l'invitait chez lui à Copenhague, au Danemark, pour y organiser une exposition Jean Vercade. Ça a eu un très grand succès, il a tout vendu. Alors, au milieu de la grande ville, sa décision de quitter le monde lui est apparue comme une nécessité. Cette pensée-là le comblait de joie. Et c'est à ce moment précis qu'il a rencontré qui? Jorgensen, le fameux Jorgensen, ou Jorgensen, ou Jorgensen, le grand écrivain danois, n'est-ce pas, à Copenhague, qui cherchait alors lui aussi la vérité. Il s'est converti, lui aussi. « C'est précisément ma joie, dit-il, Vercade, qui impressionna si fortement Jorgensen, car il n'était pas heureux. Il avait un grand désir de l'être heureux. L'insatisfaction de son cœur était un critère irrécusable d'un égarement de l'intelligence. » Et là, le 26 avril 1894, Jean Vercade afin une fois de plus ses bagages. Il dit, j'avais appris à connaître la joie du recueillement. Une joie qui n'attire pas tant qu'on ne l'a pas goûtée. Alors, il est remonté la vallée du Danube, il est arrivé à Beuron, il a retrouvé un bénédictin qu'il aimait beaucoup, et qu'y avait-il de mieux pour lui que de se joindre à toute cette troupe de moines? Alors, pareil milieu était pour lui le paradis. En fin de compte, écrit-il, n'étais-je pas déjà bénédictin de cœur? Il a été reçu parmi les novices, il est devenu par la profession religieuse dont Willibrord de Vercade. Et puis, le 20 août 1902, il a été ordonné prêtre, catholique. Il a évoqué lui-même, d'ailleurs, dans la seconde partie de son autobiographie, toute sa carrière de peintre moine. Alors, il s'est promené un peu partout à Vienne, en Palestine, au Mont Cassin. Et il n'a jamais oublié quand même ses amis, les peintres nabistes, dont je vous ai parlé tout à l'heure, les grands peintres comme Sérusier, etc., sont allés le voir à Beuron. Il a eu une influence énorme sur tous ces gens-là. Hein. Puis il a attiré plus d'un de ces gens-là vers la lumière dans laquelle il baignait. Et ce grand converti danois, Jorgensen, avait aussi fini par fixer son regard sur l'Église catholique, sur Rome. Mais il restait... il hésitait à se convertir vraiment. Hein. Alors, il est venu à Beuron, et de là, il est sorti guéri. Il est descendu en Italie, et puis il a fait profession de foi catholique. Et ce fut un jour splendide, un jour de résurrection pour lui. Jamais auparavant, nous avions si intimement été unis. Et du nombre de ceux de ses amis qui ont changé, ben, puis qui sont devenus des grands apôtres avec lui, ben, il y a Giovanni Papini, le philosophe Max Scheler. En tous les cas, après la guerre de 1914, notre bénédictin a occupé plusieurs fonctions importantes dans le monastère. Ça l'a obligé à déposer son sac de bâton puis de peintre. Il l'a fait à regret. Puis bientôt, les forces ont commencé à décliner. Il a dit adieu à la peinture. Puis dans ses dernières années, il a traduit et publié en allemand, pas n'importe quoi, les œuvres de Jean Ruysbrock, le fameux grand mystique Ruysbrock. Et il avait choisi cet auteur parce qu'il n'y avait chez lui que Dieu. De plus en plus, c'était son unique centre d'intérêt. Il écrit « Devenir vieux, c'est glisser lentement dans la solitude avec soi-même et avec Dieu. Se fixer dans l'essentiel. S'affranchir de toute illusion. » Et des vaines préoccupations. C'est un abordement en Dieu après une périlleuse traversée. Et dont Willibrord Vercade a abordé donc le ciel, la terre de beauté infinie, dirait-on, le 19 juillet 1946.